Bonjour, ce morceau était pour accueillir notre invitée, à savoir Marie Cantagril, qui est violoniste et qui est accompagnée par Héloïse Urban. Et c'est un morceau, je vais lui demander de nous le présenter, et c'est un des extraits de son CD Ombre et Lumière. Bonjour Marie,
Bonjour.
merci d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous pouvez nous présenter le morceau que nous venons d'écouter, s'il vous plaît?
Oui, il s'agit de Nigoun de Enerz Blok. Alors Nigoun en hébreu, c'est un chant improvisé, sans parole, c'est une recherche spirituelle, c'est un chant qui permet aux gens qui le chantent et puis à ceux qui écoutent d'atteindre un autre niveau de conscience et de chercher le divin.
D'accord.
Donc c'est vrai que c'est un morceau qui m'a toujours fascinée depuis que je l'ai découvert à l'adolescence. J'ai toujours été fascinée par l'énergie qui émanait de cette œuvre, cette improvisation. Parce que c'est une partition écrite, hein, mais le Nigoun, en général, c'est une improvisation. C'est pour ça que j'ai essayé, avec Éloise, nous avons essayé de chercher justement des couleurs, des timbres, des choses voilà, qui peuvent aider à atteindre un autre niveau de conscience, à chercher ce qu'il y a au-dessus. Alors on parle de Dieu, bien sûr, pour les croyants, mais chercher ce qu'il y a au-delà, en fait, au-delà.
Dans le, ça peut être dans le cosmos.
Voilà, au-delà. Alors on appelle la recherche du divin. Mais
c'est une ouverture.
Une ouverture, tout à fait. Une ouverture au divin. Voilà.
D'accord. Donc vous êtes violoniste?
Oui.
Vous êtes née dans un, comment dire, avec des parents mélomanes, musiciens?
Alors, mes parents n'étaient pas du tout musiciens, ils étaient plutôt sportifs.
D'accord.
Mais par contre, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient... Mon arrière-grand-mère était chanteuse d'opérette à Toulouse.
D'accord.
Et ma grand-mère, elle faisait de la comédie, elle était mon premier prix de comédie de Paris, voilà. Donc, et puis, je pense qu'un petit peu plus au-dessus, il y a dû y avoir aussi des instrumentistes. Je crois que mon arrière-grand-père italien était violoniste, mais je ne l'ai jamais connu. Enfin, dans la famille, il n'était pas très... On n'en a pas beaucoup parlé, mais il me semble qu'il était violoniste dans un orchestre à l'orchestre de Monaco. Il me semble.
D'accord. Et vous, à partir de quel âge avez-vous appris à jouer du violon?
Alors moi, j'ai commencé le violon vers 4 ans et demi, je crois.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer de cet instrument?
En fait, c'est mon papa qui a décidé qu'il avait cette... Lui-même n'avait jamais pratiqué un instrument de musique, il n'avait jamais joué de violon, mais il avait cette obsession de...
Que ses enfants ou que son enfant jouerait du...
Ça, c'était mes parents. Mes parents, d'accord, tous les deux, voulaient qu'on fasse de la musique.
D'accord.
Mais mon père, c'est le violon. Voilà, parce que ma mère m'aurait mis au piano. D'ailleurs, on l'a fait un peu plus tard, parce que j'ai fait les deux. Uh-huh. Mais mon père disait toujours, je me souviens très bien, quand j'avais 4 ans, il disait, oui, mais le violon, elle pourra l'emmener partout avec elle sera jamais seule.
Oui, ça, c'est évident.
Voilà. Enfin, il a oublié que parfois, enfin, la plupart du temps, il faut être accompagné. Bon, il y a du répertoire pour violon seul, mais
oui,
peu quand même. Enfin,
oui,
par rapport à l'immensité du répertoire pour violon et orchestre et violon et piano.
Oui, bien sûr. Oui, le violon, c'est souvent
même
dans
les deux chambres,
dans l'orchestre symphonique ou orchestre de chambre.
C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, c'était son idée. Et il me disait, si jamais un jour tu es triste, ton violon sur le dos, tu ne seras jamais seul. Ça m'est resté. Mmh. Ça m'est resté. Et puis, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, je me suis mise au piano et j'ai fait les deux. Mmh. Comme mes frères, on a fait tous violon-piano. Voilà.
Ils sont musiciens, c'est bon?
Alors, non, eux, ils sont partis sur autre chose. Moi, j'ai continué.
D'accord. Et où est-ce que vous avez fait tout votre apprentissage, si on peut dire, du
violon? J'ai eu plein d'écoles, en France d'abord, à Grenoble, en région parisienne, puis après je suis partie en Belgique, j'ai côtoyé des grands maîtres russes, voilà, non, un parcours très riche, très varié.
Très éclectique.
Très éclectique.
Et donc, c'est votre papa
qui a choisi, qui a poussé pour le violon. Voilà.
Pour le violon. Et vous, justement, du haut de vos 4 ans, comment l'avez-vous ressenti? Comment avez-vous réagi? Est-ce que...
Mais moi, je me souviens... 4 ans, c'est petit, quand même.
Et oui.
Hein. Bon, après, j'ai une bonne mémoire. Mais je me souviens très, très bien que déjà, avant de commencer le violon, avant de commencer la musique, j'étais quand même assez fascinée par les sons. Bah ça, c'est complètement idiot quand je raconte ça, mais par exemple, j'étais fascinée par tous les sons qu'on pouvait créer, les portières de voiture, les bruits de stylo. Vous savez, quand on est petit...
Le papier.
Enfin, quand on est petit et que les adultes vous entourent, finalement, vous êtes très attentif à plein de petits détails auxquels nous, on ne fait plus attention aujourd'hui.
Et dans l'univers sonore, vous intéressez?
Ah, moi, c'était quelque
vous
chose...
Vous aviez une sensibilité fort développée.
Oui, terrible, terrible. Pour moi, un son, c'était tout un univers.
Mm-hmm.
Donc,
une porte ouverte sur l'imaginaire.
Tout de suite, un son, c'était quelque chose qui me transportait dans quelque chose d'agréable ou pas agréable, ou quelque chose qui me faisait peur, ou qui me faisait pas peur, ou qui... Bon, voilà, donc c'est veillé tout cet univers-là. Et donc, quand j'ai commencé, je me souviens très très bien de mon premier cours de violon. C'était avec mon papa, dans une toute petite école de musique dans la vallée du Rhône. Je crois que c'était Pierre-Latte, il me semble. Et je me souviens très très bien de cette sensation de fabriquer soi-même un son.
Et oui.
Voilà.
Enfin, vous extrayez d'un instrument, vous arriviez
à
créer un son.
C'est ça. Et quand ça m'arrive de faire des animations parfois dans les écoles, ou ça m'est arrivé plusieurs fois, et quand je fais essayer un petit violon à un enfant, il y a toujours cette réaction. Par rapport au son qu'il fabrique. C'est-à-dire que c'est toujours une réaction, pas la même forcément selon les enfants, mais une réaction, mais c'est moi, ce son c'est moi, comme sa voix en fait.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Vous voyez,
c'est juste. Oui, je comprends, c'est une chose très personnelle.
C'est que très très personnel.
Oui, voilà. Oui, c'était Marina Chiche que j'ai entendue ces jours-ci, là, et qui disait que, je ne sais plus, alors je ne me souviens plus maintenant le nom du musicien, qu'une dame avait été le voir, lui avait dit, mais ce violon, vraiment, après un concert, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et puis, dont le musicien a approché le violon de son oreille et a dit, mais moi, je n'entends rien.
Mais c'est Aïfette qui a dit ça.
Voilà. Et dont Marina Chiche disait, il y a certes le violon, parce qu'elle était partie sur l'histoire des Stradivarius, mais elle disait, il y a aussi le violoniste, quoi, comment le violoniste...
Oui, c'est Aïfette qui, après un concert, Aïfette, ce grand violoniste, très connu, qui après un concert, une dame est venue en disant, maître, vous avez un violon, mais oh, qu'est-ce qui sonne bien votre violon. Il a pris le violon, il l'a secoué, puis il a dit, mais c'est curieux, moi je n'entends rien. Oui, non, mais c'est sûr que l'instrument...
Après, c'est une rencontre entre l'instrument...
Évidemment, mais on ne choisit pas un instrument par hasard aussi.
Oui, je sais bien.
C'est sa voix.
Oui, bien sûr.
Un violon ne peut pas convenir...
À tout le monde, à la même personne.
Voilà, à la même personne. Donc c'est vraiment... C'est peut-être plus... Moi qui ai fait les deux, c'est peut-être plus personnel que le piano encore. Surtout au début, parce qu'au début, si vous voulez un petit enfant, il pose les doigts sur le piano, puis vous avez un son qui sort.
Oui, mais le violon, c'est autre chose.
Le violon, c'est autre chose. Avant qu'un son sorte passable...
Il faut travailler.
Il faut beaucoup travailler.
S'exercer, oui.
Il faut s'exercer, oui.
C'est magnifique, mais qu'est-ce que ça demande, quoi.
C'est ça.
Bon, toute petite, vous avez eu le plus petit violon, comment on appelle, c'est le...
Oh, moi, j'étais déjà grande, à 4 ans, j'étais grande.
Donc
j'ai dû commencer sur un quart.
Ah oui,
mais
d'accord.
C'est vrai que j'ai des élèves qui ont un huitième.
Et oui, c'est pour ça que je vous posais la question.
Il y a encore le 16e après, mais c'est vraiment très très,
très
petit.
Oui, oui.
C'est un jouet.
Oui, d'accord, oui. D'accord, Widow, vous directement sur un quart.
Moi, j'ai commencé sur un quart parce que je suis grande.
Oui, mais je vois.
Et j'étais déjà grande, petite, donc...
D'accord.
Voilà.
Okay. Et ensuite, vous avez eu plusieurs violons, j'imagine.
Alors après,
même arrivé à l'âge adulte, je veux
alors
dire.
Après, j'ai eu un parcours un peu compliqué. Bon, l'enfance, l'apprentissage dans les écoles de musique. Après, c'est vrai que j'ai eu un parcours à la fois compliqué, à la fois riche, puisque j'avais pas de violon. En fait, c'est très onéreux, hein. C'est très très cher, instruments sont très chers.
Et, oui.
Et donc, je suis allée de violon prêté en violon prêté par des mécènes, par des organismes. Il y a le Fonds Instrumental Français qui m'a prêté un pic, par exemple, un violon pic pendant 2-3 ans. Et je suis allée de mécène en mécène. Et donc, c'était très riche parce que j'ai pu jouer sur beaucoup de violons différents. Mais en même temps, c'est très compliqué de faire ça, parce que vous ne pouvez pas vous attacher.
Et puis, il faut que chaque fois, vous vous familiarisez,
voilà,
vous l'apprivoisiez.
Tout à fait. Alors ça m'a beaucoup développé la capacité de m'adapter. Mais en même temps, c'est vrai que quand vous savez que vous avez un violon prêté sur 3 ans ou sur 5 ans, vous savez très bien que, en fait, il ne faut pas vous attacher.
Oui.
Donc, peut-être qu'il y a un travail aussi en profondeur quand j'ai eu mon violon, il y a presque 14 ans, mon propre violon, vraiment à moi, que j'ai acheté.
C'est celui que vous avez actuellement ?
Que j'ai eu actuellement. Ça a été complètement différent. Parce que là, le travail que j'ai pu
développer
mais c'est... Bon, après, c'est très subtil, évidemment. Quand on parle de ça, on est vraiment à des subtilités. Mais il y a quelque chose de très profond qui s'installe, puisque c'est votre instrument. On ne vous le prendra plus, celui-là.
Oui, il est là, vous.
Voilà.
Vous faites corps avec.
C'est ça. Et donc là, vous pouvez l'explorer, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez aller vraiment, même dans les réglages. J'ai une luthière qui est formidable, qui est Magali Calpena, qui est à Saint-Gaudens. Et on a travaillé énormément sur cet instrument et on le pousse vraiment dans tout ce qu'il peut donner.
Dans tous ses retranchements.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, il faut savoir que les violons, le bois vieillit. Oui. Quand ils sont beaucoup joués, le bois devient élastique. Enfin, un violon, ça change. Alors, la voix ne changera pas, mais il y a des subtilités qui peuvent être développées, recherchées. Donc, c'est infini. C'est très intéressant.
Et vous pouvez nous le décrire, votre violon ?
Alors, si je devais le décrire, je dirais qu'il est rond. Il est rond, il a un timbre particulier. J'ai pas cherché un instrument avec une puissance phénoménale comme certains stodistes, parce que voilà, dans les. Mais en fait, la puissance qu'il a quand il traverse une salle ou qu'il passe au-dessus d'un orchestre, c'est par le timbre. Donc le timbre se différencie et c'est par le timbre qu'on l'entend. C'est pas tellement par la puissance des décibels.
Mais c'est un violon que vous avez, comment dire, qui a appartenu à quelqu'un, que vous avez racheté, ou comment,
alors,
son histoire.
C'est un violon, je pense, qui faisait partie d'une collection aux États-Unis. C'est un calcanus de l'école de Gênes de 1748. Donc vous imaginez que Bach était encore vivant quand il a été fabriqué. Il est mort 2-3 ans après. Donc, non, c'est un très très beau violon. La chance que j'ai, c'est d'avoir trouvé ce violon dans un état de fraîcheur. Apparemment, il n'a pas été tellement joué.
D'accord.
Donc, on trouve une table dans un état de fraîcheur incroyable pour un violon de cette époque. Et il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est une voix que j'ai. Et en plus, je l'ai trouvé le jour de mon anniversaire. Ça faisait plusieurs fois que j'allais chez Jean-Jacques Rampal à Paris, ça faisait plusieurs fois. Et puis, je ne trouvais pas.
Un violon qui vous convenait.
Oui, voilà. J'avais quand même sélectionné des calcanus déjà. Donc, le timbre me plaisait déjà.
De ce luthier.
De ce luthier, voilà. Et le jour de mon anniversaire, la troisième fois que je suis venue, il m'a ouvert la porte, il m'a dit écoutez, j'ai un violon pour vous.
D'accord. Voilà. Parce qu'il connaissait vos exigences, vos.
Parce que c'était plusieurs fois que j'allais le voir et que j'essayais tout ce qu'il avait.
Et justement, pourquoi ce luthier? Puisque vous dites que déjà vous aviez cherché autour de ce luthier.
Parce que. Calcanus, vous voulez dire, oui. L'auteur de. Oui. Parce que les calcanus, il y a un timbre, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une rondeur de. Une rondeur de.
Du son?
Oui, une rondeur de son. C'est un timbre très, très particulier.
D'accord.
Très chaud, très rond, très. Vous voyez, même les aigus, je trouve qu'ils font. Ils sont. Souvent, les aigus, dans les mêmes chez les strades, où on peut avoir des aigus un peu stridents, parfois un peu cristallins.
Oui.
Un peu cristallins.
Oui.
Moi, ce que je voulais, c'était vraiment de la rondeur.
D'accord. C'était votre.
C'était
la motif, si on peut
dire. Chose qui m'enveloppe.
D'accord. Oui, d'accord.
Voilà.
Okay.
Voilà.
D'accord.
C'est ça.
Okay. Et il est en quel bois, vous le.
Alors, c'est de l'érable. La table est en érable. Et épicéa. Oui, épicéa. Voilà.
D'accord. Et les cordes?
Alors, les cordes, il y en a beaucoup des cordes. Hein. J'ai essayé beaucoup de cordes différentes. J'ai les cordes de Corélie qui me sponsorise depuis très longtemps, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils participent au concours, ils participent à tout ça. Et les cordes, après, ça dépend du répertoire aussi qu'on prend. Par exemple, quand on a un répertoire très virtuose, il nous faut des cordes très réactives. Quand on a un répertoire un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus romantique, un petit peu plus. On prend des cordes un peu plus chaudes. Enfin, les cordes, c'est vraiment. Ça se change pas mal.
Oui, en fonction de ce que vous souhaitez jouer.
Tout à fait.
Je vous propose peut-être que nous écoutions un second extrait. Après, nous l'écouterons, vous le présenterez, puis nous continuerons la conversation.
D'accord.
Thank you.
Merci. Vous pouvez nous présenter le morceau que nous venons d'écouter ?
Oui, j'étais en train de penser justement à ce compositeur extraordinaire qui est Tchaïkovski. Et je pensais à toute cette souffrance qu'il a endurée pendant toute sa vie. Et je me disais, comment est-ce possible de composer avec tant de lumière dans ses œuvres. Quand je pense par exemple au concerto de Tchaïkovski, le concerto pour violon, c'est une œuvre tellement lumineuse et...
Qui fait contraste avec ce que lui a enduré.
Oui, ben en fait, ce concerto, il l'a écrit juste après une tentative de suicide ratée. Mm-hmm. Donc, et dans ce concerto, on trouve que de l'espoir, de la lumière, de la beauté. Et là, c'est le cas dans cette mélodie de Tchaïkovski. Donc, ça fait partie d'un petit recueil. Là, dans le disque, on a aussi le scherzo, qu'on n'a pas entendu. Mais ça fait partie d'un recueil de trois pièces. Donc, une méditation que j'ai enregistrée dans un autre CD, le scherzo. Et cette petite mélodie que nous venons d'entendre, qui est un moment de grâce et de lumière. Je pense qu'il y a pas mal de chanteurs qui l'ont reprise, cette mélodie, parce que c'est très vocal comme. Et donc ça fait partie de ce recueil, ça s'appelle Souvenir d'un lieu cher, que Tchaïkovski a composé en 1878. C'était un moment de sa vie, je crois, où il était assez stable avec son amie la comtesse, et il était chez elle, et c'était un moment de peut-être de repos pour lui,
de sérénité,
voilà.
D'accord. Et donc, puisque c'est un extrait du CD Ombre et Lumière, comment avez-vous choisi justement les compositeurs avec la pianiste ? Comment cela s'est fait ?
Ça s'est fait vraiment très très facilement. Mais d'ailleurs, tous mes albums,
tous vos enregistrements,
tout ça s'est fait un peu.
Ce sont des coups de cœur.
Oui, voilà, ce sont des coups de cœur. Et puis c'est comme une évidence
du moment.
D'un coup, je me dis, ben voilà, c'est ça.
En fonction de ce que vous vivez.
Ça, voilà, exactement. D'accord. Quand j'ai été malade, très malade, je savais pas si j'allais pouvoir
continuer,
rester ici, en fait. Donc d'interrogation sur mon avenir, c'est vrai que là je me suis dit, si je guéris, je vais faire l'intégrale de Bach.
D'accord.
Ça s'est fait comme ça. Et là, c'est vrai que cet album, il est né de cette période étrange, de confinement, mm-hmm. de peur, de rétrospection, de repli sur soi.
D'introspection.
D'introspection.
De tout ce qui
tout à fait, autour, d'introspection, oui. Et de cette peur de l'autre aussi, cette peur d'attraper, l'autre est un ennemi, etc.
Donc, ah, ça c'est terrible.
Ça c'est terrible. Et
comment lutter contre ça,
oui. C'est ça. C'est
quoi
ça,
en faire, justement.
C'est ça, exactement. Et s'interroger aussi sur la lumière, et puis mais aussi sur l'ombre, en fait, l'ombre que nous portons en chacun de nous, cette ombre qui nous pousse justement à avoir peur de l'autre, à avoir peur. Comment en faire un moteur, comment... Alors de là, sous ces réflexions-là, puisqu'on avait le temps, puisqu'on était confinés, ça, on a été privilégiés parce qu'on était avec notre instrument, ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, on a pu travailler, vraiment se plonger dans un univers.
Elle vit en Ariège aussi ?
Alors, pas très loin, elle vit à Belbèze, pas très loin, d'accord. Pas très loin, à une demi-heure à peu près.
D'accord. Donc,
enfin, elle est à Toulouse, mais elle a une maison, pas très loin de chez nous.
Et vous, c'est un petit village qui s'appelle Tourignan, c'est ça ?
Moi, c'est un petit village qui s'appelle Tourignan, vieux. C'est le village de mes ancêtres.
Mes ancêtres,
voilà. C'est une famille qui...
Pour vous, ça a été une nécessité de revenir à...
C'est-à-dire que je suis venue ici parce que j'étais un peu condamnée, et puis...
Vous êtes venue vous ressourcer, vous.
Et puis je suis remontée vers la lumière.
D'où le... Peut-être ce...
Peut-être aussi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur les deux faces, parce que c'est Alfred de Musset qui en a mis sur le disque et qui dit « L'ombre existe, mais pas sans la lumière ». Et c'est vrai que chacun peut-être a un... Je dis ça, peut-être a un rôle. Peut-être que l'ombre a justement le rôle de nous ramener, de nous élever vers la lumière, que sans l'ombre, peut-être que... Je ne sais pas.
Que vous n'auriez pas capté l'essentiel.
Voilà, ce sont des questions.
Des questionnements, oui.
Et en tout cas, voilà.
Que vous avez mis en musique, que vous avez choisi d'interpréter.
C'est ça. Et j'ai pris les compositeurs qui m'étaient chers, ou bien depuis longtemps, comme c'était le cas de Nigoun. Mm-hmm. Donc l'énergie dans Nigoun, la lumière dans Tchaïkovski, cette espèce de lumière. On dirait qu'on vous caresse un peu le cœur, c'est plein d'espoir. Et puis il y a eu aussi des œuvres un petit peu endiablées, comme Les Petits Lutins, avec une virtuosité. Je voulais aussi préserver la légèreté, si vous voulez, parce que c'est quand même de la musique, et donc il y a le tri du diable, on raconte que le diable a réveillé Tartini à la nuit pour lui souffler cette sonate, et que donc il a fait un pacte avec le diable, enfin voilà, tout ça, en restant léger, tout ça, je trouvais que c'était mon univers du moment, toutes ces interrogations spirituelles, la lumière, l'ombre, Donc oui, on a choisi assez facilement les compositeurs. Et puis on a mis aussi des compositeurs virtuoses comme Wieniawski, mm-hmm. avec des œuvres qui éclatent un peu de joie, de virtuosité, avec les airs variés par exemple. Donc la danse macabre de Saint-Saëns aussi. Ben, là aussi, Saint-Saëns s'est intéressé dans cette danse qui est célèbre. Hein, danse macabre, il s'est intéressé aux forces de la nuit. Mm-hmm. Oui. Donc c'est bien que ça nous tracasse un petit peu tous, mm-hmm. cette histoire, hein, de qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas.
Oui, peu importe.
Peu importe, ça. Mais oui. on est un petit peu...
Oui, la part d'ombre et de lumière comme qui est en chacun de nous, ça, plus ou moins développée.
Ça nous taraude un peu, oui. hein, mm-hmm. on ne sait pas. Puis on a beaucoup tellement de questions sans réponse aussi. Mm-hmm. Donc voilà, ben, la musique est une façon peut-être de survivre, d'accepter justement qu'il y ait des questions sans réponse.
Et comment avez-vous rencontré, là, parce que tout à l'heure j'ai l'impression que j'ai mal prononcé.
Éloise, oui. Éloise, mais c'est une faute qui est souvent.
Oui, pardon, excusez-moi.
Éloise Urbain. Voilà, qui est professeur à Toulouse au conservatoire et qui est vraiment une super pianiste.
Comment l'avez-vous rencontré?
Alors, comment on s'est rencontré? Par un ami commun.
D'accord.
Par un ami commun.
Et vous avez décidé de.
Ah ben ça a accroché tout de suite. D'accord. Éloise est quelqu'un qui a beaucoup vécu de choses
difficiles
et qui a, de par ce fait, comme on disait tout à l'heure, ben, qui a ouvert des portes, mm-hmm. beaucoup, et musicalement, ben, ça a tout de suite collé avec elle.
Voilà, qui construit.
Voilà, qui construit, qui avance, et puis surtout, on a une affinité musicale très forte.
Oui, ça joue, ça aide.
Oui.
Mais là, justement, pour l'enregistrement de ce CD, puisque c'était en période de confinement, vous faisiez chacune de votre côté à distance.
Ah non, non, on pouvait répéter. Parce qu'elle était confinée à Belbèze, donc on avait une dérogation pour pouvoir répéter.
Okay.
Et donc, on pouvait se voir, on était à une demi-heure. Hein, puis oui, on était en race campagne. Donc,
oui, bon, vous ne croisiez pas grand monde.
On ne croisait pas grand monde. Et donc, on travaillait donc, à Tourigny-en-Vieux, puisque j'ai une salle, la salle de l'académie que je suis en train de mettre en place.
Et oui, vous avez créé aussi.
Voilà. Et c'est là qu'on a enregistré d'ailleurs. Mmh. C'est là qu'on a enregistré ce.
Et c'est le label ABP, vous pouvez nous en parler en
deux mots. Bah, c'est un label familial, ABP Musique Classique, un label indépendant qui a produit mes 7 ou 8, je ne m'en rappelle plus, 8 albums, je pense, 8 CD. Et oui, c'est un petit label indépendant, il en faut pour pas n'avoir que des majors qui font la pluie et le beau temps. Enfin, je dis ça, hein, que personne ne le prenne mal, mais...
Oui, non, mais...
mais c'est important d'avoir des petits labels comme ça, indépendants, parce qu'on peut faire des choix musicaux.
Bien
on peut,
sûr, voilà, vous avez plus de liberté.
On a plus de liberté, et je pense que pour un artiste, je pense, c'est ma conviction, c'est peut-être pas celle de tout le monde, mais je pense que ma conviction, c'est qu'un artiste a besoin de beaucoup de liberté.
Bien sûr.
Pour pouvoir créer, faire quelque chose qui ait du sens, en fait. Il faut beaucoup de liberté.
Et qui, quelque part, lui ressemble. Et...
C'est ça.
Et conviennent à ses aspirations, si on peut dire.
C'est ça. C'est quelque chose qui ait du sens et qui soit nourri. Voilà, il faut de la liberté. Alors, ça se paye souvent un petit peu cher, mais...
Oui, j'imagine,
Mais en même temps, la liberté, peut-être c'est...
Elle n'a pas de prix.
Voilà, c'est ce qu'on a peut-être de plus précieux.
Oui. Oui, je pensais. Mais bon, c'est un petit label, donc, mais justement, comment dire, j'imagine que ce n'est pas tous les jours facile, y compris financièrement, et puis même d'un point de vue administratif, et aussi financièrement, quoi, pour pouvoir... vivre, enfin, pour pouvoir...
Oui, mais bon, on a fait quand même ce 8e album.
Oui, non, mais c'est parce que...
Oui. Mais c'est vrai,
que... ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail.
Mais je pense que tous les labels indépendants ont dû un petit peu de mal à subsister.
S'accrocher.
Ils s'accrochent courageusement et on est reconnus, on a quand même des aides, hein, la SPPF qui est là, qui est le syndicat des labels. Non, on existe quand même malgré tout.
Oui, je sais bien.
Puisqu'on est distribué quand même, on est enregistré dans les FNAC, dans les Cultura, on est très diffusé sur les plateformes internet aussi. Donc, on a la boutique sur internet.
D'accord.
On peut trouver chez Amazon, on peut trouver sur Deezer, sur Topic. Enfin, on est quand même assez
bien,
assez
distribué.
Bien distribué. Voilà.
Oui,
si quelqu'un qui veut le CD, il peut le trouver.
Il peut le trouver, oui, bien sûr.
Il peut
le
trouver. Donc, ça, c'est bien. Mais...
Non, moi, je parlais plus pour les gens, les personnes qui s'en occupent.
Ah
quoi,
oui,
que
oui,
ça...
oui, mais ça, il faut des passionnés.
Que c'est un travail de fourmi. Quoi.
Ça, il faut des passionnés. Mais je ne m'entoure que de gens passionnés.
D'accord.
Pour moi, c'est la base de tout, la passion. Si on n'a pas de passion...
On ne peut pas avancer.
Si on n'a pas de passion, si on n'a pas d'appétit, si on n'a pas d'envie de s'élever, d'envie de faire des choses pour les faire. Pas pour un retour, mais parce qu'elles ont du sens. Et
parce que ça veut dire quelque chose.
Parce qu'on doit les faire. C'est comme une évidence. dans cette vie, dans une autre, peu importe, mais on fait les choses parce qu'on doit les faire. Et quand je dis doit, d'un point de vue spirituel.
Parce que voilà. Ça correspond à quelque chose c'est de très
ça.
Profond.
C'est ça, c'est pas pour un retour, c'est pas pour avoir du succès, c'est pas pour avoir de l'argent. Alors évidemment, il en faut un peu quand même, et s'il y en a, c'est une conséquence et c'est bienvenu, évidemment. Je vais pas vous dire le contraire, mais à la base, l'épreuve que j'ai traversée m'a renforcée là-dedans.
Et oui, j'imagine.
L'épreuve de la maladie, on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce qui reste quand on...
Quel est le moteur, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là d'une certaine manière
c'est
et que...
Ça, c'est ça. C'est ça. Et puis pourquoi on fait les choses
parce qu'est-ce qui vaut la peine de défendre ces projets
enfin, c'est ça. Parce que pourquoi on fait les choses, en fait, la question, c'est... on reste très peu de temps sur Terre, finalement. Et c'est pas du tout triste, ce que je dis. Hein. C'est très joyeux, au contraire. Mais, et pourquoi on fait... Justement, quand on se met sur ce plan-là, dans cette dimension-là, tout prend un sens merveilleux parce que... Bah, parce qu'on fait les choses... parce qu'on les aime, on fait les choses parce que...
Parce que c'est une évidence.
Parce que c'est une évidence, on aime les faire.
C'est un besoin.
Tout à fait.
C'est presque comme
Et la vie prend des reliefs...
Comme une seconde respiration.
C'est ça, et la vie prend un relief tout à fait...
plus riche, plus coloré, intense.
Coloré.
Je vous propose peut-être que nous écoutions un troisième morceau.
Oui.
Toujours pareil, vous en parlerez après.
Thank you.
pouvez nous préciser ce que nous venons d'entendre, s'il vous plaît?
Oui, c'est une pièce qui s'appelle Odessa et qui est du compositeur Jason Meyer. Jason Meyer est un compositeur américain que je connais depuis quelques années et qui m'a écrit ce morceau, qui a dédié ce morceau.
Pour vous?
Alors, il l'a écrit pour sa grand-mère, mais il me l'a dédié.
D'accord.
Voilà. En fait, c'est une pièce qui est pleine de nostalgie, de subtile nostalgie, puisque sa grand-mère est née à Odessa et qu'elle a fui.
Oui.
Elle est partie aux États-Unis et donc elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Mais c'est vrai que voilà, cette d'où on vient, nos origines, pourquoi on est devenu ce qu'on est.
Enfin, la transmission,
voilà. Donc, c'est vrai que c'est une pièce qui est pleine de parfums, de nostalgie. Et je la trouve appropriée dans ce disque, dans la mesure où, là aussi, les épreuves de la vie, on pourrait parler d'ombre, hein, puisque c'est tout d'un coup de la noirceur qui vous tombe dessus, des épreuves plus ou moins douloureuses et qui peuvent se transformer finalement en moteur et qui peuvent vous aider à retrouver la lumière ou
à avancer, à trouver
la lumière, à être dans la lumière. Et donc cette pièce courte, parce que c'est une pièce courte, et on l'a imposée d'ailleurs, au concours 2019. Le concours international 2019, on a imposé cette pièce comme pièce contemporaine.
D'accord. Oui, parce que donc, vous êtes passionné, ça s'entend. Vous remarquez, en général, les musiciens sont passionnés. Sinon, je ne vois pas trop comment vous pourriez faire. Donc, vous jouez dans des concerts, vous enregistrez, mais aussi vous avez créé un concours et puis aussi une académie de violon.
Oui, ça c'est tout nouveau. L'académie, je suis en plein dedans. Je suis en train de la mettre en place. Le concours, ça fait un petit moment puisque je l'ai créé avec l'association Musique et Partage.
Qui est dans le Couserans.
On l'a créé en juin 2013. Donc ça fait déjà un petit moment.
Et c'était une nécessité pour vous, c'est pour donner l'opportunité à de jeunes violonistes, enfin de jeunes musiciens, pardon.
Oui, c'est-à-dire que en fait, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, des concours. C'est une occasion de se rencontrer pour les jeunes, c'est extrêmement stimulant.
Et de leur permettre d'être devant un public.
Voilà, il faut le voir comme ça, parce que pour moi, un concours, ce n'est pas un jugement.
Permettre d'avancer, de progresser.
Exactement, c'est une marche et c'est avant tout une rencontre. Et le parcours est tellement difficile. Difficile pour les instrumentistes et surtout pour les jeunes. Vous savez, je sais bien que dans tous les domaines, c'est difficile, mais l'art, c'est quelque chose... C'est profond, dans la mesure où quand on vous juge, quand vous êtes un adolescent, par exemple, ou un enfant, ou un adolescent, ou un jeune adulte, et qu'on vous dit « ça va pas, c'est pas
évident,
bien
»,
c'est votre... Enfin, c'est vous-même qu'on juge, en fait. Oui. C'est pas ce que vous faites... Vous voyez, c'est un peu, ça se mélange finalement, la part de soi-même et la part
c'est très poreux.
Et l'interprétation que vous faites d'une œuvre, par exemple, ça se mélange. Donc, c'est quand même difficile, on est très exposé. Donc, j'avais envie de créer.
De pouvoir soutenir des jeunes.
C'est ça, et ce concours, et de le faire en Ariège, puisque...
C'est là que vous vivez.
C'est là que j'ai guéri, surtout.
D'accord. Donc, pour vous, c'est important.
C'était une sorte de gratitude. J'étais pleine de gratitude quand j'ai compris que ma vie n'allait pas s'arrêter tout de suite. Et j'étais pleine de gratitude. J'avais un sentiment... indéfinissable, qui porte et qui donne envie de
faire des choses.
De faire des choses pour les autres, de faire des choses, de voilà, qui donne envie de...
D'oser faire peut-être
Exactement.
Des choses que vous n'auriez pas osé
Exactement.
Entreprendre peut-être il y a quelques années.
C'est possible. Puis j'aurais pas vu le sens peut-être.
Oui, pourquoi en Ariège?
Oui, puis pourquoi un concours? Oui. Et puis pourquoi? Parce que c'est lourd, vous savez.
J'imagine,
c'est
très, organisé.
Très lourd,
oui.
C'est très très lourd. Et là aussi, il faut beaucoup de passion. Mais on a une super équipe de bénévoles. On a la présidente Anne Godibert qui est absolument formidable.
C'est la dame qui s'occupe
c'est
aussi
ça.
Du
Alors là, 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 vous parlez de passionné. Vous avez là quelqu'un de.
Oui, je sais, je dis au téléphone.
Voilà, voilà. Donc elle tient tout ça à bout de bras. Et on a une équipe de bénévoles. On a une vingtaine de familles couseranaises quand même qui hébergent les grands candidats en excellence, qui vont les chercher
à l'aéroport ou à la gare.
Voilà. Et souvent ce sont des familles qui n'ont pas tellement vu un violon,
qui sont pas spécialement spécialisées
et qui rentrent dans ce monde grâce à ça, puisqu'ils accompagnent aux répétitions,
et
ils accompagnent
aux
épreuves, ils votent pour eux, puisque on a un vote du public à côté du vote du jury. Donc voilà, ce concours, c'est très lourd organisé, mais quand ça arrive, c'est une grande fête pendant une semaine.
Ça permet à des personnes de différents milieux, si je puis dire, de se rencontrer autour d'un projet musical.
Tout à fait.
Et de découvrir.
Autour de la jeunesse, autour d'un projet musical, autour de l'humain aussi. Ce sont des jeunes qui sont... Alors les enfants, c'est vrai que ce sont des enfants, mais c'est quand même stimulant pour eux, c'est intéressant, ils sont contents. Et même ceux qui n'ont pas de prix, ils sont stimulés, ils veulent
ils
travailler.
Ils ont participé.
Ah, ils ont participé, ils sont contents, ils ont vu les autres, ils ont et puis ils peuvent voir les grands aussi.
Ils
les
sont
grands...
enrichis.
Voilà, c'est ça. Et les grands, ce sont souvent des gens, la plupart, hein, ce sont des gens qui se lancent dans des carrières. Donc pour eux, c'est vraiment très intéressant de venir, de montrer un travail, de pouvoir jouer pendant trois quarts d'heure sur scène. C'est une échéance, c'est une expérience.
Bien sûr.
Il n'y a pas beaucoup de concours.
De voir un public.
Il n'y a pas beaucoup de concours, même internationaux, où vous pouvez jouer aussi longtemps. En général, vous avez un premier tour où au bout de une minute, on vous sonne la cloche pour vous dire c'est bon. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'éliminatoire et on joue trois quarts d'heure. Et ça, pour eux, c'est une grande chance.
C'est durant l'été, c'est ça?
Alors là, c'est fin juin, début juillet. Maintenant, depuis quelques années, on le fait quand même début juillet, première semaine de juillet.
D'accord. Donc c'est durant sur une semaine.
Voilà, c'est sur une semaine. On a un salon de lutherie aussi avec des luthiers d'un peu partout qui viennent présenter leur travail. Là. Des archetiers, on a les épreuves, on a les répétitions. Et puis on a le concert des lauréats aussi avec l'orchestre d'Ariège que je dirige.
L'orchestre
de chambre qui permet aussi aux petits comme aux grands de se produire en soliste avec orchestre.
Avec des musiciens accomplis, entre guillemets.
Voilà, c'est ça.
Il y a longtemps que vous êtes à la direction de cet orchestre ?
Depuis 2011.
D'accord. Et ça a été facile ou...
Oh oui, écoutez, ça s'est passé vraiment incroyablement là aussi, parce que j'étais en Ariège depuis peu, et puis j'étais encore en convalescence, et puis les musiciens, cet orchestre, c'était un groupe d'amis qui... Voilà, et ils m'ont contacté, ils m'ont dit ça serait bien que tu viennes, et puis ils m'ont réchauffé, ils m'ont aidé, et donc à mon tour, en fait...
Vous avez voulu leur donner quelque chose.
J'ai voulu vous donner, voilà, donc j'ai été fait travailler comme des malades. Ils ont travaillé comme des fous et on est arrivé à se hisser à un niveau maintenant qui commence à être bien. Et alors là, ce que je fais, la nouveauté maintenant, c'est que je l'ouvre aux très très jeunes. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait une répétition publique dimanche dernier à la salle presbytère de Saint-Lizier et j'avais quatre jeunes, dont un de 12 ans.
Ah oui, effectivement, c'est
très
jeune.
Et trois jeunes filles en adolescence, quoi, 15, 18, 19. Et donc, ça les forme au métier de musicien. C'est merveilleux, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et donc ça stimule aussi les professionnels parce qu'ils ont en charge des jeunes et les jeunes sont stimulés parce que pour eux c'est une expérience. Donc voilà, c'est...
Il y a un échange comme ça.
Oui, chaque fois qu'on fait de la musique, il faut que ce soit une fête.
C'est un très beau programme, une très belle définition. Et donc parlez-nous de l'académie.
Alors l'académie, c'est un projet qui je suis en train de mettre au point, qui est un petit peu freiné par la crise que nous traversons.
Crise à tous les niveaux.
Oui, à tous les niveaux.
Sanitaire, économique, relationnel, administratif, parce que
tout est un peu compliqué là. Tout est un peu compliqué et on passe beaucoup. Maintenant, il va falloir passer sur une autre façon de travailler, les réseaux, les tout petits concerts, les choses. Pour l'instant, bon. En attendant que les choses se tassent un peu. Mais alors, cette académie, elle fonctionne déjà. C'est les prémices, mais elle fonctionne avec des masterclass réguliers.
C'est-à-dire que vous invitez d'autres musiciens, c'est
alors,
ça
Alors, pour l'instant, c'est moi qui anime les masterclass avec Romualdo Higo, qui est mon assistant, et mon compagnon aussi.
Ah, d'accord.
Et puis, je l'ouvre au violoncelle, là, depuis quelques temps. Au violoncelle avec Nathalie Ouradou et puis Marc-Antoine, qui vient de Paris, qui est professeur dans la région parisienne. Et donc, c'est des masterclass très réguliers on va mettre en place, si vous voulez, une formation, un diplôme qui pourra récompenser en fait les élèves qui suivent une formation régulière avec nous.
D'accord.
Et je compte effectivement, comme vous disiez, l'élargir, c'est-à-dire inviter d'autres professeurs et l'étendre de plus en plus. Une formation un peu
plus étoffée.
Oui, régulière, continue, mais à travers des sessions. Voilà.
Ce qui est souvent le cas des masterclass.
C'est tout à fait ça. Avec des concerts, avec des répétitions publiques.
Oui.
Parce que ça, les jeunes adorent ça et puis le public aussi.
Et c'est important pour le public aussi de voir
important.
Ce que ça signifie.
Tout à fait.
Parce que le concert, c'est une chose, mais tout ce qui est en amont.
Exactement. Et en général, le public qui vient au concert après la répétition, ben, il écoute d'une autre façon.
Mais oui.
Et il est très
parce
content.
Qu'il a vu comment a vu. Tout cela se.
Il a entendu la chose, l'œuvre se monter, etc. Donc voilà. Et puis il y a des résidences d'artistes aussi dans cette académie, c'est-à-dire des compositeurs que je vais inviter et que j'invite déjà, qui écrivent des œuvres pour nous et qu'on crée. Hein, comme je leur dis souvent, en fait, une création d'œuvre, c'est quand même quelque chose de très émouvant parce que tous les grands compositeurs ont été créés un jour. Personne ne savait ce que ça allait devenir.
Bien sûr.
En fait. Donc c'est toujours un moment très émouvant de pouvoir partager avec le compositeur qui a écrit, qui est vivant, qui est en chair et en os avec vous pendant une petite semaine et qui vous fait travailler selon ce qu'il a dans la tête.
Oui, ce...
Et puis l'artiste aussi, l'interprète, le fait travailler aussi parce qu'il propose des choses auxquelles le compositeur n'aurait pas pensé. Et finalement, c'est un travail quand même...
Mais d'échange
un
aussi.
Un travail d'échange, oui.
Oui. Et de stimulation.
Tout à fait.
D'accord. Et aussi, j'ai lu dans la présentation là, du CD Ombre et Lumière que enfin, votre désir aussi était de porter la musique à tout le monde, de donner à tout le monde l'opportunité, notamment auprès des jeunes, mais aussi auprès de personnes plus ou moins favorisées, disons, de pouvoir leur faire écouter, leur faire entendre, leur faire découvrir de la musique. J'aimerais que vous en parliez un petit peu.
Oui, ben c'est-à-dire que je suis marraine depuis 2013 d'une association qui s'appelle Yarivarem, en Ariège, qui est très connue, qui a 25 ans, et c'est une association qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Mais quand je dis s'occupe, c'est là où il y a la différence de Yarivarem. Mais c'est en occitan, c'est nous y arriverons.
Oui,
oui. C'est une association qui donne du rêve aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en situation de handicap, quelles qu'ils soient, qui donne du rêve, qui monte en haut des montagnes, qui fait des descentes en luge, qui fait du ski même quand ils sont sur un fauteuil roulant, et qui offre aussi des concerts et de la culture. Et voilà, donc là aussi avec cette association là, j'ai donné pas mal de, bon là en ce moment tout est un peu mais j'ai donné des répétitions publiques, des concerts pour des personnes en situation de handicap. Et je suis aussi marraine d'une deuxième association qui s'appelle l'association El Sol, où là aussi je fais des concerts caritatifs pour cette association. Là, c'est pour les enfants du Guatemala.
D'accord. Alors,
ça n'a rien à voir, mais c'est une façon aussi d'aider à travers la musique, si vous voulez, par la musique, d'arriver à financer des... un semblant de vie décente pour ces enfants qui sont
ces
abandonnés
enfants,
de tous.
Guatemaltèques, ils sont,
tout le monde s'en fiche.
Orphelins, c'est quoi ?
Ah ben oui, tout le monde s'en fiche, personne.
Ils vivent c'est dans des grandes villes, dans des petits villages.
Non, c'est dans les coins les plus reculés ou en ville ou peu importe, mais ils sont totalement oubliés de tous et tout le monde voilà.
Ils n'ont pas de parents.
Alors souvent les parents soit ils sont pas là, soit ils sont morts, soit ils sont quasiment inexistant.
D'accord.
Dans le sens où ils s'en occupent pas, et c'est vrai que c'est une association qui fait un travail remarquable.
Elle s'appelle
l'association El Sol.
D'accord. Voilà. Et elle a beaucoup de correspondants ou de correspondantes en France.
C'est sur Saint-Giron principalement. Là.
D'accord.
Autant Yarivarem, c'est sur plusieurs départements, mais El Sol, c'est sur Saint-Giron, mais ils font un travail absolument remarquable. Remarquable. Ils ont réussi à construire plusieurs maisons pour des familles, ils ont scolarisé des enfants.
Au Guatemala. Oui,
ils ont scolarisé des enfants, ils ont monté des ateliers pour donner du travail. Non, ils font un travail. C'est une toute petite association avec peu de bras, mais qui travaille formidablement bien.
Mais comment c'est parce qu'ils ont eu l'occasion d'aller là-bas et qu'ils se sont...
Alors, c'est toute une histoire. Vous savez, quand je vous parlais de sens, il y a toujours un sens quand on fait les choses.
Surtout pour ce genre de choses.
En fait, la présidente de l'association, Catherine Cassé, a vécu là-bas.
D'accord.
Et elle a vécu là-bas pendant la guérilla et elle a été sauvée par des familles guatémaltèques qui l'ont cachée. Enfin, c'est toute une histoire.
Oui, oui.
Et donc, elle voulait...
Et elle a vu certaines choses.
Elle a vu certaines choses et elle voulait rendre...
ils l'ont sauvée. Ce qu'on lui avait donné. Quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ça rejoint un peu votre histoire, d'une certaine manière, si on peut dire. D'accord. Et là, puisque bientôt nous allons terminer l'interview, vos projets ?
Alors là, mes projets...
Certes, là,
l'académie qui,
la
est,
grandir,
là, qui est en train de, qui est en train de prendre vraiment forme, puisqu'on a déjà deux salles de cours qui sont prêtes. Après, travailler avec...
C'est chez vous, à Torignan.
Alors, c'est à Torignan.
Dans
après,
le même village,
après j'ai l'intention de beaucoup, beaucoup travailler avec les communes autour.
Oui, autour.
De faire participer toutes les communes.
Du coup, ça rend...
Comme vous disiez, d'aller amener la musique dans les coins les plus reculés. Ça, je le fais déjà depuis un petit moment, mais de continuer toujours à aller dans les petites communes, aller dans les petites... Voilà, offrir des répétitions publiques, proposer des concerts, etc. Et un deuxième disque, et vu que la situation n'a pas l'air de s'arranger tellement, donc il y a un grand point d'interrogation sur la suite. L'étranger, on n'y pense même plus.
Pour l'instant,
c'est un peu compliqué. Donc là, il y a un deuxième disque, un neuvième, on va dire.
Oui.
Un neuvième.
D'accord.
Un neuvième disque qui est en préparation.
Avec qui ?
Avec Éloise aussi.
D'accord.
Avec Éloise Urbain aussi, oui.
Et vous avez déjà choisi les compositeurs, j'imagine.
Oui, mais ça, c'est secret.
Ah oui, je n'en doute, j'allais pas vous le demander, je ne me permettrai pas, je n'en serai pas.
Ça, c'est encore un peu secret, mais je pense que ça va être quelque chose de... En tout cas, ça aura du sens pour nous.
Et puisque, vous êtes en Ariège et pendant très longtemps, il y avait un festival de musique classique à Saint-Lizier qui
Oui,
après
tout à
a
fait.
été, qui était, moi je recevais
Tout à
par
fait.
téléphone le chef artistique, David
Oui.
Ling,
Lévi.
voilà. Et puis après, bon, il s'est amusé, et puis bon, il n'existe plus.
Il s'est écroulé, oui.
Oui,
Ils ont
oui.
beaucoup de dettes et
Ah
ils se
oui.
sont écroulés, oui.
Et est-ce que vous pensez que ça pourra être, comment dire, revivre ou
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai créé un festival.
J'ai vu, oui.
Oui, donc là, c'est les grands rendez-vous de musique classique.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Donc, oui, c'était un petit peu le deal du département de me proposer de reprendre,
De faire
mais
renaître.
voilà, c'est ça, de reprendre le flambeau. Et c'est ce que j'essaie de faire. On a fait venir Claire Désert et Pascal Moragues cet été. On a fait venir le Quatuor Aquilone. On fait Trio Zadig va venir l'année prochaine. Et là, on a un superbe concert dimanche. J'allais
Ce
oublier.
dimanche.
Oui, j'allais
Ah, c'est
oublier de
important.
l'annoncer. C'est important. Donc, on a un superbe concert dimanche à 17h30 à l'église de Mercenac. Donc, c'est en Couserans, pas très loin de Saint-Girons.
D'accord.
Une très jolie église, d'ailleurs. Et on a une grande star de l'accordéon. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai jamais entendu de l'accordéon comme ça.
D'accord.
C'est le duo Jbanov, sont des Russes. Ils ont fait tout leur apprentissage à l'école des surdoués à Novossibirsk, l'école de Venguerov, entre autres. Et donc, piano, ils sont frères et sœurs. Anna et je sais plus comment, j'ai un trou. Et Romane, voilà, ça
D'accord.
y est. J'ai pas regardé, hein, vous avez vu,
Oui,
ça
oui.
m'est revenu. Donc Anna et Roman Jbanov, ils sont russes tous les deux et ils nous font un duo piano-accordéon. Et
D'accord.
ça fait plusieurs fois qu'on les invite et c'est absolument extraordinaire. On passe 1 heure de magie.
Ah oui, ça
Ils nous
doit
entraînent dans
être.
des univers. Ah oui, c'est vraiment très 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 un très très beau concert là qui est prévu.
D'accord, 17h30.
17h30.
Et pour les réservations, ça se passe comment?
À l'office du tourisme, je
Office de
pense.
tourisme
Sinon, oui, sinon on peut téléphoner à l'association Musique et Partage, c'est le mieux.
D'accord.
L'association Musique et Partage en Couserans,
Là, il y aura toutes
voilà, sur
les tous les
Internet, voilà,
renseignements.
il y aura tous les renseignements.
D'accord. Nous écoutons le dernier morceau que vous avez prévu, peut-être?
Je sais plus ce qu'on a prévu. C'était lequel?
Oui.
Alors, on peut passer soit la danse macabre, soit la ronde des lutins. Qu'est-ce que vous préférez?
Et vous, qu'est-ce que vous préférez?
La ronde des lutins, peut-être?
La ronde des lutins.
Hein,
Allez,
ça peut
c'est
être
parti.
joyeux, non?
C'est parti, la ronde des lutins.
Thank you.
peut-être deux mots sur cet morceau très entraînant.
Oui, la fameuse Ronde des lutins de Bazzini. Il a été composé en 1852 et c'est un scherzo fantastique. Enfin, il y en a qui ont dit, j'ai une citation sous les yeux là, Blair Johnson qui a dit cette Ronde des lutins voit de mécréants gobelins forcer le violoniste à étirer ses doigts à la limite pour l'obliger à suivre leur pitrerie satanique.
Oui, il faut une agilité.
C'est un morceau diabolique parce que c'est très très virtuose. Ah oui, c'est très difficile, très très difficile. Et donc c'est vraiment on est plus dans les couleurs, on est dans la virtuosité service de la enfin, pas de la joie de vivre parce que ce sont lutins,
de la fantaisie.
Mais c'est essoufflant quoi. Donc c'est une pièce redoutée des violonistes.
Il faut tenir.
Il faut tenir. Puis on a un coup d'archet assez particulier un ricochet qui saute et donc on imagine bien les petits lutins qui courent partout. Mm-hmm. Donc ça aussi c'était un clin d'œil en fait aux forces de la nuit puisque les lutins c'était un petit clin d'œil.
Et donc nous allons nous séparer en écoutant un dernier morceau. Et vous l'annoncez, puis comme ça, après, Clélia nous le fera entendre.
Oui, on pourrait. Alors après, on pourrait écouter la danse macabre, mais on a déjà entendu les lutins. On pourrait écouter le thème original varié de Wieniawski, qui est aussi une pièce très redoutée des violonistes, parce qu'elle est diabolique. Wieniawski, c'est vrai un violoniste qui a vraiment écrit pour les violonistes dans toute la difficulté. Il est vraiment allé dans les retranchements de la technique du violon. Donc, c'est un thème, vous allez l'entendre, qui commence par une cadence et un thème. Après, qui se décline dans plusieurs variations tout aussi diaboliques les unes que les autres, où il y a toutes les difficultés du violon qui sont représentées. Mais c'est une pièce pleine de gaieté, c'est une pièce pleine de gaieté, d'énergie, avec des magnifiques envolées lyriques. Et surtout, la fin finit aussi en rythme infernal. Et là, c'est vrai que cette pièce, je voulais la mettre parce que c'est un petit peu un feu d'artifice dédié à la joie, à la vie. Et donc, ça, voilà, pour contrecarrer un petit peu les forces de la nuit.
C'est toujours les forces, c'est Eros. Quoi.
C'est ça.
Eros contre Thanatos.
Exactement, exactement.
D'accord. Et simplement, juste une petite curiosité, quels sont les violonistes que vous admirez ou qui vous ont, influencé?
Moi, j'ai été beaucoup influencée par l'école russe, puisque j'ai travaillé avec Igor Oistrakh, j'ai travaillé avec Zoria Chikmonsaeva au Conservatoire de Moscou. Donc, il y a tout l'héritage de la technique russe. Après, il y a un violoniste que j'ai adoré, pas jeune d'ailleurs, mais jeune adulte en fait, quand j'étais adolescente. Quand on est adolescent, c'est vrai qu'on n'a pas le même. On était plusieurs à détester Heifetz, par exemple, à l'âge de 15 ans. Maintenant, on se rend compte du génie. Mais ce violoniste, c'est Milstein.
D'accord.
Voilà, Milstein, j'ai une vénération pour ce violoniste. Je trouve qu'il a un phrasé, il y a une grandeur que je trouve, qui lui est particulière et que j'aime beaucoup.
D'accord. Et peut-être juste rappeler le concert de ce dimanche, et puis après nous écoutons le morceau et nous disons au revoir sur ce morceau.
Oui, donc c'est dimanche 19 décembre, ce dimanche-là, à 17h30, à l'église de Mersenac en Couserans. Et c'est le duo Jbanov, Anna et Roman Jbanov, qui sont russes et qui nous offrent un concert accordéon-piano, mais l'accordéon, comme vous ne l'avez jamais entendu.
D'accord. Je vous remercie infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir.
Au revoir.
c'est le dernier morceau que nous avons écouté, interprété par Marie Cantagril, qui vient de nous quitter, parce qu'elle avait d'autres occupations, et Éloise Urbain. Donc c'est le CD Ombre et Lumière. Et puis, bon, vous aurez noté qu'il y a un concert demain dans le Couserans. Le Couserans, c'est pas très loin, c'est bon, tout près de Saint-Girons, c'est ce qui, la région, enfin la région, tout ce qui est autour de Saint-Girons, on va dire ça comme ça. Donc, normalement, nous aurions dû recevoir Aurélien, donc qui est le maître de l'exposition, si je puis dire. Ben, il a oublié ou je ne sais pas. Enfin, il a eu un empêchement, j'imagine. Alors, je ne sais pas s'il fera des permanences cet après-midi ou pas.
Il nous a appelé en nous disant qu'il avait eu besoin de dormir.
Ce sont des choses qui arrivent.
Voilà.
Mais si tu étais bien, si nous l'avions su avant, nous aurions...
Tout à fait. Bon. Je suis bien d'accord, je partage ton point de vue.
Mais l'exposition est toujours visible, l'exposition qu'il a organisée, parce que ça, c'est quand même un travail de titan, de réunir tous ces divers plasticiens et plasticiennes et photographes. Donc, elle est visible jusqu'à la fin du mois. Je vous rappelle aussi que ce soir, à Archipel, il y a le vernissage à 18h, 18h30 d'Art en Vrac, Art en Vrac, ce sont différents artistes qui déposent leur œuvre, qui les présentent, qui feront des permanences et puis éventuellement aussi qui les vendent, entre guillemets, pour notamment au profit de l'association Archipel. Aussi vous dire qu'au détour de mes pas qui me guident dans la cité des Violettes, j'ai découvert une exposition au centre-ville, rue Kennedy. Rue Kennedy, c'est tout près du Capitole, c'est une rue qui rejoint, qui permet d'aller de la rue Alsace à la rue de Rémusat. Et donc, il y a un hôtel qui est très ancien, qui s'appelle l'hôtel Albert Ier, et qui a un grand salon. Et ce grand salon accueille deux artistes. Il y a notamment un sculpteur et une peintre. Le sculpteur, dont il sculpte sur bois. Et la peintre, elle a beaucoup voyagé et elle a rencontré beaucoup de personnes parce qu'elle m'a expliqué que c'était justement pour elle un moyen de rencontrer les gens, de faire de la peinture. Donc elle discute avec les gens, elle fait des esquisses et puis après elle les retravaille. Des fois elle les prend en photo. Et dans son exposition, en fait, ce sont de grands portraits, mais de diverses ethnies, de toutes les ethnies qu'elle a rencontrées au cours de ses nombreux voyages. Donc c'est très intéressant. Alors, c'est, bien sûr, c'est gratuit, vous pouvez y aller. On ne vous demande même pas le pass, c'est pour dire, voilà. Et ça finit le 19, c'est-à-dire dimanche, et c'est ouvert de 11h à 18h, et les deux artistes sont présents. Donc éventuellement, c'est vraiment c'est une exposition vraiment à découvrir. Moi, je l'ai découverte comme ça, en marchant, et je m'y suis précipitée. Voilà, et sinon aussi, ben la première demi-heure, il y avait l'interview des deux artistes qui participent au marché de Noël, mais c'est un marché consacré à l'art, donc il y a Compas Caffarelli. Et puis là, sur les allées Jules Guesd, il y a le petit marché, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis, le marché d'artisanat solidaire. Et lui, je crois qu'il finit ce week-end, si mes souvenirs sont beaux. Donc ça permet aussi de fêter la fin d'année d'une autre manière, moins mercantile, et aussi en rencontrant des artistes ou des artisans. C'est toujours très intéressant de discuter avec des gens qui créent, avec des gens qui placent la beauté des fois, ou l'esthétique, ou la recherche, ou voilà. Oui, peut-être que Clélia voulait juste dire quelque chose.
Peut-être en conclusion, on voulait remercier Paul
À la technique aujourd'hui, voilà, pour ce qui me concerne.
De nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine et de nous avoir fait voyager dans le monde merveilleux des 13 ans.
Des adolescents.
De l'adolescence, c'est vrai que souvent on se dit que ça ne nous manque pas. mais il y en a quand même qui sont sympas. Non, ça c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas on a bien rigolé cette semaine. Est-ce que tu veux dire quelques mots avant de nous quitter?
Au revoir, hein. Et du coup moi je m'en vais ce soir
en vacances.
Et est-ce que ça t'a donné envie de travailler dans la radio?
Ouais, pourquoi pas.
Qu'est-ce que t'as bien aimé et qu'est-ce que t'as moins aimé?
Qu'est-ce que j'ai aimé? Plutôt la technique, beaucoup. Et le montage son. Après, parler à la radio, ça, c'est pas... Parler devant beaucoup de personnes, c'est pas très... C'est un peu... Ouais, j'aime pas trop.
Mais les personnes, elles sont cachées. Enfin, tu ne les vois pas.
Comment ?
Les personnes, tu ne les vois pas. Tu les imagines.
Oui.
C'est ce qui est mystérieux, fantastique dans la radio.
Oui, bah oui, bien sûr.
Parce que dans un studio, entre le casque et le micro, nous sommes protégés, quoi. Et puis, c'est justement comme ça, on parle à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est tout le mystère de la radio. Mais bonnes vacances, hein, puisque là, ce sont les vacances, ce soir, les vacances de Noël. Enfin, oui. Ouais. Et oui, juste un petit mot, vendredi, je ne ferai pas d'émission, le 24, mais en revanche, je viens mercredi pour le magazine entre 13h et 14h. Et vous découvrirez qui seront mes invités mercredi à 13h. Merci, mais merci Paul d'avoir été à la technique aujourd'hui, puisque durant mon créneau. Merci Clélia et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.